dans ma famille, on était 5 filles et j'étais l'aînée. Alors, je ne sais pas si vous êtes, vous avez vécu l'ambiance d'une famille nombreuse, mais c'est assez particulier. Et ma mère disait souvent, heureusement qu'elles doivent répéter leurs instruments, parce que sinon elles se disputeraient tout le temps. Alors, l'occupation de répéter l'instrument avait un pouvoir calmant et on avait un objectif avec ça. Mais je pense qu'il en est de même pour nous en tant que chrétiens à la veille de cette nouvelle année. Il y a beaucoup de choses qui peuvent nous distraire, qui vont nous éloigner loin de Dieu. Mais si on reste concentré sur ce que le Seigneur veut de nous, sa volonté, la prière, la lecture de la Bible, comme on l'a bien entendu encore ce matin, eh bien, le Seigneur peut nous garder loin de ces détours qui nous tentent souvent dans notre vie chrétienne et qui nous font perdre du temps. Alors ça, c'est un poème qui a été écrit par un père à sa petite fille, mais qui est valable pour nous aussi en tant qu'adultes. Propose plus que tu n'en peux voir, mais au fond de la Bible tu trouveras caché les beautés invisibles que Dieu t'a réservées. Si tu pouvais croire, ou si tu pouvais voir combien l'amour de Dieu est grand pour te sauver, tu pourrais avoir, oui, tu pourrais savoir ce qu'il te faut pour l'éternité. Il est des richesses qui vont te décevoir, car rien dans la détresse ne sert de les avoir. Rien ne peut satisfaire, remplir ton pauvre cœur, que ce que la prière t'apporte du Seigneur. Si tu pouvais croire,
c'est le dernier dimanche de l'année. Je sais que vous le savez. Et on est vraiment à l'avant-dernier jour de l'année aussi. Parfois, c'est le 25 ou le 26. On dit qu'on a toute la semaine encore. Mais là, mardi démarre une nouvelle année. Et je suppose, je ne sais pas exactement pour chacun, mais la plupart d'entre nous, en tout cas, on a démarré déjà l'année 2018 avec le Seigneur, c'est-à-dire nous étions déjà sauvés et donc nous avons ajouté une année à notre pèlerinage spirituel. Et puisque nous croyons que la Bible est la parole de Dieu, nous pouvons toujours penser que l'année qui s'achève ou l'année qui vient pourrait être la dernière année de notre année sur terre avant que le Seigneur ne déchire les cieux pour venir enlever son église. Il y avait un célèbre prédicateur qui était beaucoup à la radio dans les années 60 et 70, même 50, 60 et 70. Mais chaque année, il est devenu très âgé, mais chaque année, à la première émission de radio de la nouvelle année, il disait, j'étais persuadé que le Seigneur allait venir l'année dernière. Et je l'attendais. Mais il va peut-être venir cette année. Alors, je l'attends. Et il a fini sa vie comme ça, dans l'expectative, dans le désir que le Seigneur vienne. Et l'Église dit, Seigneur, viens bientôt. Mais souvent, à la fin de l'année, on fait un peu le point. On fait le point sur l'année écoulée. Et la semaine prochaine, on a tendance à un peu faire le point sur l'année qui vient, essayer de voir ce que l'on peut voir. Souvent, on ne voit pas grand-chose hein, dans l'année qui vient. Parfois, à la fin de l'année, on dit, oh, si j'avais su ce que je vivrais au cours de l'année écoulée, je ne sais pas si j'aurais voulu la vivre. Mais bon, on l'a vécu et Dieu était là. Mais si on se projette un peu en avant, on peut se poser la question, est-ce que je serai fidèle au Seigneur tout au long de l'année 2019? Et si le Seigneur me prête vie ou s'il ne revient pas, est-ce que dans 5 ans, je peux raisonnablement penser que je serai fidèle au Seigneur d'ici 5 ans? Nous connaissons tous des croyants qui étaient à nos côtés, dans nos églises, dans nos réunions de prière, dans nos cultes, dans les années passées. Et aujourd'hui, ils ne sont dans aucun culte. Peut-être certains n'étaient jamais convertis, mais d'autres, on est convaincus, oui, qu'ils sont sauvés, mais ils ne vivent pas pour le Seigneur. Et combien ça fait de la peine. Et en tel, comment va-t-il? Ou, hélas, ça fait des mois, ça fait des années que je ne l'ai pas vu. Je sais qu'entre lui et le Seigneur, ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui peut nous garantir qu'on restera fidèle? Ce matin, c'est plutôt une exhortation, oui, de commencer et de finir. De finir ce que l'on a commencé. Alors, il y a plusieurs exemples. D'abord, l'exemple de Dieu lui-même. Dieu est un Dieu qui commence et qui achève tout ce qu'il a commencé. Il amène à la perfection tout ce qu'il a démarré. Et en Genèse chapitre 2, trois domaines, regardez, chapitre 2, verset 1 à 3, dans son œuvre de création. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Ce que je veux qu'on voit, c'est qu'il a fini ce qu'il a commencé. S'il avait laissé en détail, en plan, peut-être la vie sur terre ne serait pas possible. S'il manquait un certain gaz dans l'air, s'il avait manqué une loi de physique, on ne serait pas là pour voir. Il a dû tout achever pour que tous les détails fonctionnent ensemble. Mais il a terminé ce qu'il a commencé. Il a cessé de créer, il n'a jamais repris, parce qu'il n'avait pas besoin de reprendre un aspect de la création. Il a tout fait parfaitement et il s'est reposé une fois qu'il avait terminé son œuvre de création. Mais regardons en Hébreux chapitre 10. Ce n'est pas la seule œuvre que Dieu a faite. Nous sommes ici pour témoigner que Dieu a fait une deuxième œuvre. La grande œuvre qui nous touche, c'est son œuvre de rédemption. En Hébreux chapitre 10, c'est Jésus-Christ dont il est question. Dans le verset 7, par exemple, « J'ai dit, c'est Christ qui parle, voici je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. » Jésus vient en disant, « Père, tu as une volonté et je viens pour accomplir ta volonté. » Quelle est cette volonté? Dans le verset 10, « C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Regardez verset 12. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Et verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Non seulement le sacrifice du Christ nous a procuré ce qu'on appelle la justification, le salut. Le sacrifice du corps du Christ nous a procuré la sanctification. C'est-à-dire que quand nous arrivons devant la face de Dieu et que tout péché sera ôté et que nous verrons Jésus et nous serons semblables à lui, c'est en vertu de ce même sacrifice qui nous a sauvés le jour de notre conversion. Ce sacrifice assure la justification, toute notre sanctification et la glorification. Et Jésus l'a achevé. Ce sacrifice a été fait. C'était pour faire la volonté de Dieu. Il est ressuscité. Il est ressuscité, ça prouve que sa mort a été achevée, que tout ce qu'il devait faire par la mort a été payé, puisque sinon il serait resté mort. Mais comme il est ressuscité, ça veut dire que cette partie-là est totalement achevée. Et nous, quand on s'approche du Seigneur, quand nous sommes approchés du Seigneur, nous avons arrêté nos œuvres personnelles pour gagner le salut. On a compris, je ne peux pas gagner mon salut, je ne pourrai jamais gagner mon salut. La seule chose que je pourrais gagner, c'est l'enfer. Alors, j'arrête. J'arrête d'essayer de mériter la grâce de Dieu, je la reçois comme un don, en don. Et je reçois pour moi-même tout le bénéfice du sacrifice de Jésus-Christ. Il a achevé son œuvre de rédemption. Et en Philippiens chapitre 1, verset 6, et parfois on dit, oui, mais il a achevé son œuvre de rédemption, d'accord, et nous sommes sanctifiés, d'accord, mais je n'en suis pas encore là. Pourquoi je continue à pécher? Et est-ce qu'un jour ça va s'arrêter? Est-ce que le Seigneur peut me délivrer de mon imperfection? Est-ce que Dieu peut mettre fin à cette lutte qu'il y a en moi entre mes deux natures? Ma nature nouvelle qui ne peut pas pécher et ma nature ancienne qui ne veut que pécher. Et parce qu'il y a une dualité en nous. Il y a une lutte continuelle. Philippiens chapitre 1, verset 6, où l'apôtre Paul dit, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » C'est-à-dire, on a la garantie qu'un jour on sera parfait. Il a commencé, il la rendra parfaite, il achèvera. Alors que le Seigneur ait achevé la création, on n'était pas là pour le voir. Nous sommes entrés dans une création qui était parfaite, achevée. Mais ça nous touche de plus près, peut-être, de dire, je me souviens comment j'étais avant mon salut. Je me souviens de mon parcours jusqu'à présent et des incidents qui l'ont marqué et des chutes et des faux pas et des faillites. Et j'espère que ça sera une pente ascendante. J'espère que je vais monter en sanctification, mais nous avons la garantie qu'on arrivera à la sainteté parfaite parce que Jésus va achever l'œuvre qu'il a commencée en nous. Il commence, il termine. Ça, c'est l'exemple de Dieu lui-même. Il ne laisse rien en plan. Il dit, je terminerai ce que j'ai commencé. Et nous avons des exemples, l'exemple des hommes de foi. Pensons à Hébreux chapitre 11. Vous souvenez-vous de ces héros de la foi? Déjà, Jésus est le héros principal. Quels sont deux de ces noms qui viennent de l'alphabet grec? Je suis l'alpha et l'oméga, le début et la fin. Il commence, il finit. Jésus est toutes les lettres aussi entre les deux. Hein? Il est tout, mais il est le début et la fin. Il ne s'est pas arrêté à Y ou à X ou à W. Il n'a pas dit, ça fait 20 lettres, ça suffit. Non, il est allé jusqu'à l'oméga, jusqu'à la fin. Et en Jean 17, verset 4, quand Jésus a parlé à son Père dans cette merveilleuse prière, il dit, Père, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. J'ai achevé l'œuvre. J'ai terminé. J'ai commencé et j'ai terminé. Et il a prié ça avant la croix. Mais ça voulait dire, j'ai achevé toute l'œuvre que tu m'as donnée à faire jusqu'à présent et je continuerai à achever l'œuvre de la rédemption que tu me donnes de faire maintenant. Il finit ce qu'il commence. Nous pensons à ces héros de la foi, Noé. Il a construit une arche. Est-ce qu'il a terminé la construction de ce bateau? Il avait intérêt, hein? Sinon, il se serait noyé avec les autres. Il a fini le bateau. Et ce bateau a sauvé sa vie. Abraham, il est parti pour un pays que Dieu lui montrerait. Est-ce qu'il est arrivé? Amen. Il est arrivé à Canaan. Et ce pays est aujourd'hui le pays de ses descendants. Moïse, il a amené les gens à la porte du pays promis. Et s'il s'est arrêté là, c'est qu'il a été fidèle dans tout ce qu'il a fait. Le peuple a désobéi à Kadesh Barnéa. Ils ont dû tourner 40 ans dans le désert. Est-ce que Moïse les a abandonnés? Non. Même quand le Seigneur, dans sa colère, et il avait raison, a dit, Moïse, je détruis le peuple et je recommence avec toi. Je fais un nouveau peuple élu, donc toi tu seras le patriarche. Qu'est-ce qu'il dit Moïse? Seigneur, non. Ne détruis pas ton peuple. Il n'a pas dit, détruis pas ton peuple parce que ton peuple est gentil. Non, le peuple était vraiment fautif. Ne détruis pas ton peuple parce qu'il en va de l'honneur de ton nom. Tu as promis, tu achèveras. Parce que tu es celui qui achève ce qu'il commence. Tu pardonneras encore une fois ton peuple. Et il a fait. Josué a pris la suite de Moïse. Il s'appuyait sur la parole de Dieu, lit le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit, et voici tu réussiras dans tes entreprises. Est-ce qu'il a réussi? Oui. Josué a livré le peuple d'Israël, le pays de Canaan, les Cananiens, et l'a donné aux Israélites. Voilà. Le pays de Canaan est devenu le territoire d'Israël à cause de l'héroïsme, de la persévérance du général Josué. Comptant sur le Seigneur à chaque pas du chemin, Salomon devait construire le temple de l'Éternel. Est-ce qu'il a construit le temple? Il a terminé. Il a inauguré, et à l'inauguration, l'Éternel est descendu dans la gloire, dans cette nuée de gloire divine, pour remplir le temple. Et quelle prière Salomon a faite pour la dédicace du temple. Le tout, c'est de finir ce que l'on commence. Et ces hommes de foi nous montrent l'exemple. Alors, Dieu regarde vers nous. Et il sait que nous sommes faibles. Peut-être vous ne l'êtes pas, mais moi je le suis. Nous sommes faibles. Qu'est-ce qu'on dit? Oh, les résolutions, c'est pour être brisé. Hein? On fait de bonnes résolutions et 10 jours après, on a même oublié les résolutions qu'on a prises. Mais Dieu nous exhorte à rester fidèles, à être fidèles dans certaines choses. Et si nous sommes fidèles dans ces pratiques tout à fait fondamentales de la vie chrétienne, nous allons nous donner des outils pour rester fidèles dans notre cœur. Ce n'est pas fidèle dans un sentiment, c'est fidèle dans l'obéissance à certaines choses que Dieu nous a données. Alors, j'en ai 3 ou 4 ici, je vais donner 3 surtout. En Hébreux chapitre 10, Verset On va commencer avec le verset 22. Approchons-nous donc de Dieu, hein, avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. La première chose, c'est ne pas abandonner notre habitude de nous réunir avec d'autres enfants de Dieu. De ne pas abandonner cette habitude, cette coutume de nous réunir avec d'autres. Le mot « assemblée » ici, ce n'est pas « ecclésia ». C'est un autre mot que les Hébreux, parce qu'on écrit aux Hébreux, pouvaient comprendre. Et le mot, c'est « épisynagogé », c'est-à-dire comme un super synagogue. Qu'est-ce qu'on faisait dans les synagogues ? On se réunissait beaucoup comme nous nous réunissons ce matin. On avait une lecture de la parole, on avait des chants, on avait des prières, on avait une exhortation, il y avait sans doute des annonces, des nouvelles. Les synagogues ont démarré quand le temple a été détruit, quand ils sont partis à Babylone, sans temple, sans sacrifice, sans autel, sans sacrificateur. Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire, les Israélites ? Est-ce qu'ils allaient se donner aux religions païennes qui les enveloppaient ? Après tout, ils auraient pu dire, notre Dieu, l'Éternel, nous a livrés entre les mains de ces puissances païennes. Et il y avait des cultes avec des choses intéressantes. Il y avait de l'immoralité, il y avait toutes sortes de choses qui plaisent à la vieille nature. Ce n'était pas du tout le culte de l'Éternel dans ces cultures-là. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, les Israélites ? Ils ont dit non, mais il nous faut rester fidèles à l'Éternel. On n'a plus de temple, mais on va organiser des réunions régulières entre Juifs qui voulons tenir à l'Éternel. On va lire la Torah, on va lire les psaumes, on va chanter, et on va maintenir le culte à l'Éternel, même si nous n'avons pas d'autel. Même si on n'a plus de temple, même si on n'a plus de sacrificateur, rien ne nous empêche de nous remémorer ce que l'Éternel nous a dit. Et ça a tenu le peuple juif fidèle au culte de l'Éternel, à leur histoire, pendant les 70 ans qu'a duré la captivité en Babylone. Et quand Cyrus, le roi de Perse, a dit, si vous voulez revenir et reconstruire le temple et adorer Dieu de nouveau chez vous, 42 000 juifs se sont levés pour quitter le confort qu'ils avaient acquis à Babylone pour revenir dans leur pays, ravager et rebâtir la capitale Jérusalem et le temple qui étaient totalement détruits par les Babyloniens. Qu'est-ce qui leur a donné ce courage de reprendre et de se reconstruire? Comment se fait-il qu'ils ne se soient pas fondus dans la masse qu'on pourrait appeler le monde du paganisme dans lequel ils étaient? Ce qui les a maintenus, c'est ces rencontres régulières de la synagogue. Mais en Jésus-Christ, on a plus qu'une synagogue. Nous sommes réunis autour du Messie lui-même. Nous sommes réunis, et comme il dit dans les versets précédents, autour du souverain sacrificateur éternel, notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes réunis en son nom. Et ça ne veut pas dire uniquement l'église locale, ça veut dire n'abandonnons pas notre habitude de nous réunir avec d'autres enfants de Dieu pour adorer Dieu, pour nous encourager, pour nous instruire, pour partager nos fardeaux, nos joies, nos peines, les fardeaux de prière. Nous voyons ici dans le verset, dans le verset 22, ces réunions régulières auquel nous assistons, auquel nous participons, il dit, venez-y avec un cœur pur. Laissons le Seigneur faire le ménage dans notre cœur. Toute amertume, toute pitié de soi, tout orgueil, tout péché, et Dieu sait que nous en avons. Mais nous pouvons nous purifier de ces choses-là parce que nous en avons les moyens en Jésus-Christ. Nous pouvons dire, je renonce au péché qui m'obsède, je renonce à choses qui tiennent captif. Je veux avoir un cœur pur, je veux y aller avec un cœur d'adoration. Je veux aller à la rencontre de mon Dieu et je ne voudrais que rien ne l'empêche de me bénir pendant que je suis en réunion avec mes frères et sœurs. Un cœur pur. Nous le voyons au verset 23. Rappelons-nous, en nous réunissant, des promesses de Dieu. Qui est-ce qui nous a fait des promesses? Celui qui nous a fait les promesses, c'est celui qui a commencé et qui a achevé ce qu'il a commencé. C'est le Dieu qui va jusqu'au bout de ce qu'il dit. S'il a fait une promesse, soyons certains qu'il va la tenir. Les promesses qui nous concernent, les promesses qui concernent son Église, les promesses qui concernent le monde. Il a promis qu'il vainque le diable. Est-ce que le diable sera vaincu visiblement un jour? Absolument. Nous le savons. On sait même dans quelles circonstances Satan sera jeté dans le trou par Jésus-Christ. On sait tout. Celui qui a fait la promesse est fidèle. Croyons aux promesses de Dieu. Alors avec ça, verset 24, il dit, quand vous vous réunissez, stimulez-vous à agir. Stimulez-vous à montrer de l'amour les uns aux autres. Il dit, oui, pour vous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. C'est quand même drôle de dire, je vais rencontrer mes frères et sœurs une ou deux fois par semaine ou trois fois par semaine, ça dépend, mais je me réunis avec eux pour leur montrer qu'en Jésus-Christ, je les aime, pour recevoir leur amour. Je me réunis avec eux pour partager mes fardeaux, mes joies comme mes peines, pour entendre les leurs, pour participer, pour ressentir l'émotion de l'autre, le fardeau de l'autre. C'est pour ça que je vais les voir. Parce que je veux mettre en commun ces choses qui me tiennent à cœur et prendre à cœur ce qui leur tient à cœur. Et nous avons des projets ensemble pour Jésus-Christ. Et on va en parler et on va les accomplir. Et on voit donc dans le verset 25, quelques-uns pensaient qu'ils n'avaient plus besoin de ces réunions. La coutume de quelques-uns, il dit. Mais non, au contraire. Aussi souvent qu'il m'est matériellement possible, aussi souvent qu'il m'est physiquement possible, je vais fréquenter un groupe de chrétiens. Je fais partie d'eux. On va travailler ensemble, on va prier ensemble, on va s'aimer, on va se supporter parfois, on va se soutenir toujours. Mais je veux être fidèle à l'œuvre de Dieu, l'œuvre collective du Seigneur. Ah! Je connais tant et tant de chrétiens, et moi-même plusieurs fois. On a une telle fatigue. On se dit, je ne peux pas aller. Je ne peux pas, c'est plus fort que moi. À peine si on arrive à prendre un pied après l'autre. Mais c'est là le soir de la réunion, j'y vais quand même. Si vous l'avez fait, vous avez sans doute reconnu et vécu une stimulation, une énergie qui revient, une joie, et on repart le cœur léger. On repart en bien meilleur état que lorsqu'on est venu. Pourquoi? Parce qu'on a rencontré l'Esprit Saint, là, dans ce groupe de chrétiens. Peut-être une réunion de prière. Parce que souvent, ce qui nous fatigue, bon, bien sûr, il y a le travail physique, il y a tout ce stress, mais ce qui nous fatigue, c'est parfois notre cœur, qui est lourd et qui pèse. Mais devant le Seigneur, ce poids, il a la capacité de le faire partir et nous refaire redécouvrir la fraîcheur de sa présence. Un deuxième domaine où, par lequel Dieu nous demande d'être fidèles, et ce domaine, disons, comment dire, on dit, il faut être fidèle pour aller à l'église. Oui, mais aller à l'église nous rendra fidèles. C'est pas je dois faire pour être fidèle, c'est qu'en utilisant les outils que le Seigneur nous donne, c'est ça qui nous aide à être fidèles. Je ne suis pas fidèle parce que je vais à l'église. Je vais à l'église parce que je suis fidèle et parce que je vais à l'église fidèlement, Dieu me garde fidèle. Ça travaille, les deux choses travaillent ensemble. La libéralité envers l'œuvre de Dieu. Regardons en 2 Corinthiens chapitre 8. 2 Corinthiens chapitre 8. Alors, on est dans une situation un peu embarrassante pour Paul et aussi pour ceux à qui il écrit, les Corinthiens. Parce que Paul avait lancé le projet, il ne l'avait pas lancé aux Corinthiens, il avait lancé un peu comme ça aux églises qu'il avait fondées dans toute la Grèce et peut-être dans Galatie aussi, à Éphèse. L'église de Jérusalem était extrêmement pauvre, persécutée, c'était l'église mère. Il savait que les frères à Jérusalem étaient dans des situations terribles et que les églises qu'il avait fondées étaient en bien meilleure posture sur le plan matériel déjà. Et il a dit, mais je voudrais, et ça venait du Seigneur, il n'y a pas de doute, le Seigneur lui a inspiré cette idée-là, on va, si vous voulez, faire une collecte volontaire pour aider l'église de Jérusalem. Est-ce que ça vous intéresse? Alors, il en a parlé à l'église de Corinthe, qui a dit, mais oui, mais ça nous intéresse, c'est formidable, mais on va participer, et puis on va participer très généreusement, tu verras, on va vraiment faire une belle contribution. Tu peux compter sur nous, avec tout le zèle et tout l'enthousiasme dont ces Corinthiens étaient capables. Paul est ragaillardi par cette promesse, par cet engagement, et il en parle aux églises dans le nord de la Grèce, en Macédoine. Vous ne savez pas quoi, on va faire une collecte pour l'église de Jérusalem, le Seigneur me l'a mis à cœur, et c'est merveilleux, parce que l'église de Corinthe va vraiment faire une belle contribution à cette collecte. Et apparemment, il ne leur a pas trop parlé de l'opportunité qu'eux pourraient participer parce qu'ils les savaient très pauvres. Et la Bible dit que les églises de la Macédoine ont demandé avec instance, est-ce que nous aussi on peut participer? Si vous voulez, oui. Paul devait sans doute ne pas penser qu'il pouvait donner grand-chose. Mais les églises de la Macédoine, à travers leur pauvreté, avaient une libéralité vers ces deux, à travers la grande épreuve de leurs afflictions, leur joie débordante et leur pauvreté profonde, ont produit avec abondance de riches libéralités de leur part. On se demande comment leur pauvreté profonde pouvait faire de riches libéralités. Mais Dieu a fait un miracle. Il a capté leur cœur. Regardez, verset 5, non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous par la volonté de Dieu. Donc leur offrande a été plus que généreuse vu les ressources qu'ils avaient. Ce qui nous amène au verset 10 et 11. Alors il écrit donc aux Corinthiens et il dit voilà... Verset 7, « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle à tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » Verset 10, « C'est un avis que je donne là-dessus, car cela vous convient à vous qui non seulement avez commencé à agir, mais qui en avez eu la volonté dès l'année dernière. Achevez donc maintenant d'agir, afin que l'accomplissement selon vos moyens répondent à l'empressement que vous avez mis à vouloir. » C'est une manière très fine, un peu ironique, de dire vous êtes empressé de vous engager pour une collecte, vous avez dit que vous alliez donner, et puis vraiment, ça va être généreux, et vous m'en avez parlé, Et moi, j'allais parler à vos églises sœurs. Et là, j'apprends, je suis sur le point de descendre vous voir, et j'apprends que vous n'avez rien fait, vous n'avez rien mis de côté. Alors, imaginez que j'arrive avec les représentants des églises de la Macédoine, à qui j'avais parlé de votre généreuse intention, et j'arrive, et voilà, on n'a rien donné. Il dit, je préfère attendre un peu. Je vous laisse le temps de préparer. Comme ça, quand je viendrai, l'offrande sera prête. Bien sûr, c'était une offrande exceptionnelle pour l'église de des Corinthiens. Alors, soit ces Corinthiens, après être si généreusement engagés avec tant de fierté, tant d'enthousiasme, qu'ils n'avaient rien, les moyens n'avaient pas suivi, ils n'avaient pas du tout mis de côté, soit ils étaient de mauvaise foi, ce que Paul ne dit pas, mais il leur fait comprendre. Bon, quand même, soit c'est un problème d'organisation. Vous ne vous êtes pas organisé. Soit vous m'avez raconté des histoires, mais en fait vous n'aviez pas l'intention. Ça, ils ne le pensaient pas. Je pense qu'ils pensaient que les Corinthiens avaient bien l'intention de participer, mais ils ne s'étaient pas organisés pour le faire. Et donc, en Corinthiens chapitre 16, nous donne une très, très, très bel exemple. Car il faut dire que, s'agissant souvent de nos finances, s'agissant de nos libéralités envers le Seigneur, c'est souvent un coup de cœur. Oh, j'ai envie, je me sens généreux. Clac. Oh, j'ai trop donné, mais c'est pas grave. Bon, là, je vais maintenant faire des économies parce que là, je me suis fait avoir. Là, j'ai un élan du cœur, ça ne m'arrivera plus. Je vais être. Je ne donne plus rien. Voilà. Regardez comment le Seigneur nous instruit. Pour ce qui concerne la collecte en faveur des saints, agissez-vous aussi comme je l'ai ordonné aux églises de la Galatie. Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra, selon sa prospérité, afin qu'on n'attende pas mon arrivée pour recueillir les dons. Il y a beaucoup de choses ici. Dans ce verset, il y a 6 ou 7 détails. Premièrement, ce que je donne au Seigneur, c'est personnel. C'est entre moi et Dieu. Et ça me concerne. Oh, on dit, moi, je n'ai pas beaucoup d'argent. Oui, mais l'argent que j'ai, Dieu me l'a confié. Dieu me l'a confié et Dieu m'en demandera des comptes un jour. Il demandera des comptes pour tout. Donc, il m'en demandera là-dessus aussi. Quelle est ma relation avec Dieu? Quelle est ma relation avec les biens que Dieu me confie? Est-ce que ces biens sont devenus des idoles dont je ne peux pas me séparer parce que tout est pour moi? Ou est-ce que je le gère comme le gestionnaire que je suis, gestionnaire des richesses qui appartiennent à Dieu? C'est une question intensément personnelle. Donc, faites-le personnellement, dit l'apôtre. Faites-le régulièrement. Là, il dit le premier dimanche ou le premier jour du mois. Alors, bien sûr, ici, il s'agissait d'une collecte qui allait être assez importante. Une collecte pour cette église de Jérusalem. Aucun Corinthien n'avait assez d'argent pour faire la contribution qu'il fallait faire à cette collecte juste sur le salaire d'une semaine. Il fallait faire des économies pour participer à la collecte. Mais la collecte allait se faire, ça c'est exceptionnel, allait se faire d'un seul coup, un seul jour. Et donc il dit, pour vous préparer à cette collecte généreuse, toutes les semaines vous faites le point et vous mettez de côté, à part, ce que vous allez donner à cette collecte. Quand la collecte se fera, vous le mettez, vous économisez, vous le mettez à part. Faites-le le dimanche, voilà, vous faites votre compte et là, voilà. Ça, c'est pour la collecte, quand Paul viendra avec les frères de la Macédoine. Et chaque semaine, vous mettez à part ce que vous devez mettre à part, ce que le Seigneur vous met à cœur pour la collecte. C'est entièrement libre, mais faites-le régulièrement. Il montre, faites-le tranquillement, dans la prière, et non pas sous la pression. Il n'y a pas de pression. C'est volontaire. Je le fais parce que j'aime le Seigneur. Combien je dois donner? Ça, c'est entre vous et le Seigneur. Faites-le tranquillement. Faites-le paisiblement. Faites-le sous le regard de Dieu. On voit que le don est un acte d'adoration. On entend constamment de la part des gens qui ne connaissent pas les églises évangéliques, qui ne connaissent pas le Seigneur, quand ils parlent d'église et de don, ils disent « Ah, c'est bon, il y en a qui se mettent plein les poches et ils profitent des pauvres qui viennent pour leur extorquer les fonds. » Vous avez déjà entendu ce genre de choses. On ne peut pas parler d'offrande parce que là, c'est la manipulation. Mais ça ne doit jamais être la manipulation. Ça les est chercher certains, mais pas dans la parole de Dieu. Ça doit être quelque chose que nous faisons parce que nous aimons le Seigneur et selon ce que lui-même nous met à cœur. Il dit, faites-le selon vos moyens. Dieu ne demande pas ce qu'il ne donne pas. Si on veut vraiment donner beaucoup à l'œuvre de Dieu, il faut lui demander beaucoup. Il peut le faire, il peut le donner. Il y a des milliers de chrétiens qui donnent beaucoup plus que normalement ils devraient pouvoir donner parce qu'ils demandent au Seigneur, donne-moi de l'argent pour que je puisse te le redonner. Et le Seigneur le fait. Mais en tous les cas, selon vos moyens. Dieu n'a pas besoin de notre argent pour vivre, heureusement, il est riche. C'est nous qui avons besoin de l'adorer par ce moyen-là. Faites-le selon votre conviction de cœur. Dans le chapitre 8, verset 7 du 2 Corinthiens, il dit « Selon ce que chacun a résolu dans son cœur. » On est devant le Seigneur, on dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse dans ce domaine ?» Il nous met quelque chose à cœur. Je vous garantis, il mettra quelque chose à cœur. C'est une conviction qui vient de lui. Il dit, agissez selon la conviction que Dieu lui-même vous donne. Faites-le joyeusement. Dieu aime celui qui donne avec joie. Et faites-le en comptant sur le Seigneur. Regardez justement 2 Corinthiens chapitre 9, versets 7 et 8. Voilà, ce sont les versets qui nous concernent, que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est intéressant que le Seigneur dit, quand tu donnes à mon œuvre, regardez vers moi. Comptez sur ma richesse. Comptez sur mes ressources. Ne comptez pas sur les vôtres. Faites ce que je vous mets à cœur et puis comptez sur moi. C'est ce qu'il dit. Je sais que Dieu est riche. Je sais que c'est une aventure de foi que je vis avec lui. Je l'adore par mes libéralités, c'est une relation que j'ai avec mon Seigneur et je le fais joyeusement, je le fais volontairement, je le fais fidèlement, je le fais personnellement, je le fais en comptant sur lui. C'est un domaine que quand nous le faisons régulièrement, ça bâtit en nous une vraie fidélité envers le Seigneur. Il y a quelque chose entre ce que je donne à Dieu de mon temps, de mes ressources, de mes talents. Si je le fais fidèlement, ça bâtit en moi une fidélité dans ma marche avec le Seigneur. C'est plus une affaire simplement d'émotion, c'est une affaire d'engagement. C'est une marque de maturité. Et puis, il y a un troisième domaine, en Corinthiens chapitre 9, qui nous garde fidèles, qui nous permet d'achever ce que nous avons commencé avec le Seigneur. Versets 24 à 27, en Corinthiens 9, 24 à 27, c'est le combat dans le service ou la discipline de l'athlète. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même désapprouvé après avoir prêché aux autres. Il parle bien sûr des fameux athlètes des Jeux Olympiques grecs. C'était l'époque. Des héros de l'Antiquité, ces athlètes incroyables qui faisaient toutes sortes de sports, qui étaient des, comme on dit aujourd'hui, les dieux du stade, mais bon, voilà. Mais c'étaient des athlètes extraordinaires. Et ils s'imposaient beaucoup d'abstinence, comme les grands athlètes d'aujourd'hui. On ne peut pas être à la tête de son sport dans le monde, dans son pays, sans avoir une discipline de vie extrêmement stricte. Et c'est intéressant que ces athlètes, il y a certaines choses qu'ils ne mangent pas, il y a certaines choses qu'ils ne font pas, il y a certains horaires où ils ne sont pas debout, ils sont au lit. Il y a des heures et des heures qu'ils passent dans l'exercice de leur sport. Ils se fatiguent, ils ont mal aux muscles. Ils sont à court de souffle quelquefois, ils font des choses que vous et moi, enfin moi en tout cas, qui me rebuterait, puisque je n'ai pas du tout les mêmes intentions qu'eux, mais ils le font volontairement. Et pourquoi? Parce qu'ils courent vers un prix. Et tout leur être, tout leur temps, tous leurs efforts, toute leur pensée va vers ce prix. Pensez à ceux qui vont concourir aux Jeux Olympiques. Il y a des gens qui aujourd'hui ont 10 ans, 12 ans et qui se préparent pour les Jeux de 2028. Et pendant les 10 ans qui viennent, leur pensée est tournée vers ça. Celui qui va avoir, ceux qui vont avoir la médaille d'or et la médaille d'argent dans ces épreuves-là, c'est des gens qui ont travaillé pendant des années. Certains tous les jours de l'année, pratiquement, pour avoir cette médaille. Ils vont avoir un moment de gloire, ils vont être connus mondialement pendant quelques minutes, quelques heures, mais ils sont prêts à passer 10 ans à faire impasse sur plein de choses que d'autres considèrent comme indispensables. Et c'est pour ça que l'athlète de haut niveau, évoqué par l'apôtre Paul ici, est un bel exemple, une belle image par rapport à notre combat qui est spirituel. Il ne s'agit pas d'assujettir son corps à la privation, de le martyriser, le corps n'a rien de mauvais, ni au luxe de le laisser aller, c'est un outil entre les mains de Dieu. Tout ce que Dieu fait sur la terre pour son œuvre se fait à travers nos corps. Tous les traités qui sont distribués, toutes les églises qui sont bâties, tout ce qui se fait à travers nos membres. Se donner à Dieu, c'est donner nos membres à Dieu, notre corps. C'est son temple et c'est son outil. Il montre ici, dans le combat, dans le service, de ne rien permettre qui domine sur nous, ou exerce une trop grande influence sur nous-mêmes. Ça peut être n'importe quoi. N'importe quelle chose dans notre vie qui devient plus importante que Dieu est trop importante. Il y a un puritain qui est devenu premier ministre anglais, M. Crowley, qui a dit « L'idolâtrie, c'est tout ce qui refroidit nos désirs pour Christ. » N'importe quelle chose qui fait qu'on aime Dieu un peu moins devient une idole, en quelque sorte, parce que ça ravit la première place dans notre affection. Et puis, non seulement le corps ne doit pas être dominé par quoi que ce soit, mais notre âme, entraînée par la méditation et la prière régulière. En Timothée 4, verset 13, regardons. Parce que notre travail principal, notre entraînement principal ne se fait pas au niveau du corps. Un athlète, c'est au niveau de son corps. Pour courir, pour sauter, ce qu'il va faire, c'est son corps. Alors, on parle souvent d'un mental. Il parle d'un mental parce qu'il faut avoir la pensée, il faut se concentrer. Il faut se concentrer sur son corps, il faut se concentrer sur ce que l'on ressent, sur ses muscles. Voilà, bon. Mais c'est une affaire de corps. Nous, la vie chrétienne, c'est une affaire plutôt d'âme et d'esprit. C'est à l'intérieur que ça se passe. C'est dans la tête que ça se passe, dans la pensée. Regardez, en Timothée 4, verset 13. « Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » Et dans le verset 15, « Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. » Il y a plein de chrétiens, quand ils se convertissent, ils vous diront, moi j'aime pas lire. Il y a des gens qui n'aiment pas lire, du tout moi j'aime lire, mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas lire. Ils n'ont jamais trop lu. Mais ce qui est drôle, c'est que les gens qui font quelque chose pour Dieu, même s'ils n'avaient pas l'habitude d'aimer lire, ils apprennent à lire et à aimer lire. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné un livre. Et ce livre, il faut savoir le lire. Et je connais des pasteurs qui sont des frères en Christ qui sont vraiment éminents dans la foi. Et j'ai entendu leur témoignage. Je n'aimais pas lire, je n'aime toujours pas lire. Lire n'importe quoi, ça ne m'intéresse pas. Mais je lis. Je lis la parole. Je lis des commentaires. Je lis des témoignages. Je lis des livres de théologie. Je lis, voilà, des choses dont j'ai besoin, des biographies de missionnaires. Je lis pour me nourrir. Et la lecture de ce qui est bon, de la parole en premier, nourrit notre système digestif. Tout comme nos corps digèrent des aliments qui fortifient nos cellules et qui nous donnent la bonne santé et le bon tonus musculaire et tout ça, ainsi les trésors de la parole et des bons livres édifiants nourrissent notre pensée, nos décisions, notre philosophie de vie, nos valeurs. On ne trouve pas ces choses sur une table. Dans un restaurant, on les trouve dans les livres. L'apôtre Paul, juste avant son martyre à Rome, il dit « Apporte-moi les parchemins et les livres. » Qu'est-ce qu'il avait à faire à lire encore? Il allait mourir incessamment. Oui, mais jusqu'à la fin, il se nourrissait, la lecture, l'exhortation, la prière. Vous savez, si nous ne lisons pas, nos prières vont manquer de substance. La vraie prière est nourrie de ce que l'on a compris de la parole de Dieu. La méditation, la lecture, la prière régulière, c'est ce qui nous entraîne. Et puis, nous devons nous garder loin des pièges et des tentations. Regardez en Thessaloniciens chapitre 5, verset 22. En Thessaloniciens 5, verset 22. Bien sûr, verset 1, examinez toutes choses, retenez ce qui est bon, abstenez-vous de toute espèce de mal. Et le mot veut dire toute forme de mal. Tout mal. Alors, bien sûr, ça c'est absolu comme verset. Toute espèce de mal, attendez, je suis entouré de mal. Oui, et on ne peut pas ne pas le voir. On voit le mal. Dans les images, dans les écrits, à la télé, partout on voit le mal. On ne peut pas fermer les yeux et ne jamais voir le mal. Mais quand nous savons qu'on va dans une mauvaise direction, abstenez-vous, c'est... Non, merci. Je le vois, je sais ce que c'est. Non, je m'abstiens. C'est la lutte du chrétien, la lutte contre des pièges et des tentations qui nous entourent. Et puis terminons avec 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Verset 7 dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Voilà quelqu'un qui termine ce qu'il a commencé, n'est-ce pas? L'apôtre Paul, quel ministère! Et il est arrivé jusqu'au bout. Et verset 8, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Il dit, et il dit ailleurs, j'étais blasphémateur, j'étais le premier des pécheurs. J'ai persécuté l'Église de Dieu. J'ai martyrisé les croyants, parce qu'ils étaient croyants. Et j'ai rencontré Christ sur le chemin de Damas. Qui es-tu, Seigneur? Il m'a révélé qu'il était Yahweh. Jésus, c'est Dieu. Alors ma question, que veux-tu que je fasse? Il m'a répondu, être un témoin. Maintenant, des années plus tard, il arrive à la fin de sa vie, juste avant sa mort. Il dit, j'ai achevé la course que le Seigneur m'a confiée. J'ai fini ma tâche. J'ai commencé et j'ai fini. Et là, il dit, je sais qu'une couronne m'attend. Je ne sais pas comment il le savait. Mais inspiré par l'Esprit Saint, on peut compter que c'est vrai. La couronne de justice m'est réservée. J'ai commencé et j'ai terminé la mission que Dieu m'a confiée. Est-ce qu'on pourrait songer à une plus belle phrase, à une meilleure conclusion à notre vie que celle-là? Ah, j'aimerais bien. J'espère pouvoir dire, oh, je n'ai pas du tout allé au niveau de Paul, mais j'espère qu'à mon petit niveau, je pourrais dire, j'ai achevé, et je pense que vous aussi, ça, c'est votre désir. J'ai passé 2018, du début jusqu'à la fin, à peu près fidèle à Dieu, je suis encore là, c'est le 30 décembre. 2019 vient devant moi. Je ne sais pas ce que cette année renferme. Je ne connais pas les épreuves auxquelles je pourrais être soumise, les souffrances. Je ne sais pas. Mais j'espère et je voudrais non seulement démarrer, mais achever l'année 2019 en communion avec Dieu, dans l'obéissance et employant les méthodes, les outils qu'il m'a donnés, mon église locale, mes frères et sœurs, mon engagement avec les ressources que Dieu m'a confiées, et puis garder les règles du combattant, faire la course pour arriver, viser la médaille d'or.